vous êtes dans la joie. Pourquoi vous êtes dans la joie? Dans la télé, je ne sais pas si vous avez, ce matin, hein, vous avez ouvert la télé, le présentateur a dit, le monde chrétien, il est dans la joie. Pourquoi? Parce que dans un certain endroit, il va y avoir la canonisation des deux papes. Ils vont être saints. Alors, ce présentateur, il a dit, le monde chrétien est dans la joie. Moi, je ne suis pas dans la joie parce qu'ils vont canoniser ces deux papes. Mais je suis dans la joie car Dieu, il m'a déjà déclaré saint. Ce n'est pas un homme qui m'a déclaré saint, mais c'est Dieu. Et pas parce que moi, je le mérite, mais c'est par et grâce Jésus-Christ. Voyez comment les hommes, ils essayent de changer la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu, il est clair. Lorsque Paul, il écrit une épître, « Aux saints qui sont à Corinthe ». Voyez-vous qu'il a écrit l'épître aux morts? Non, c'est aux vivants. Car quand on a Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes saints, nous sommes mis à part. Voilà notre joie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de, bien sûr, de Jésus-Christ, hein, parce que c'est lui qui nous intéresse, nous, pas autre chose. Et c'est aussi une réponse. Mardi, je crois, j'étais faire une distribution et je suis tombé dans une maison dans laquelle c'était soi-disant un chrétien. Et alors, j'ai voulu lui offrir une Bible. Il a dit, non, j'ai mon Nouveau Testament. Ça me suffit. J'ai dit, mais l'ancien. Il a dit, non, l'ancien, ça ne me concerne pas. Et ça m'a fait de la peine. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un ensemble du nouveau et de l'ancien. Tu veux comprendre le nouveau, il faut regarder l'ancien. Tu veux comprendre l'ancien, il faut regarder le nouveau. Et justement aujourd'hui, pour vous montrer que l'ancien est la parole de Dieu, je vais vous parler justement d'un certain personnage biblique. Il s'appelle Joseph. Vous connaissez Joseph, hein? L'histoire de Joseph. Pourquoi de Joseph? Parce que Joseph, c'est le personnage le plus typé de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais vous faire voir? Qu'en lisant dans l'Ancien Testament, hein, ce qui m'intéresse, c'est voir, pas Joseph, mais voir Jésus-Christ. Et à travers Joseph, qui est le personnage le plus typé de Jésus-Christ, on va voir que Joseph, il nous parle de Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un type, on me dirait, hein? La définition biblique d'un type, hein, c'est une illustration divine, hein? C'est-à-dire, qui dit divine, il dit retirée de l'Ancien Testament, qui vient de Dieu. Une illustration divine, prophétique, de ce qui va arriver dans le temps. Donc, on va prendre Joseph et on va regarder à travers Joseph cette illustration divine, prophétique, qui nous parle de qui? De Jésus-Christ. Car n'importe où vous ouvrez la Bible, n'importe où vous ouvrez la parole de Dieu, vous ne devez pas regarder l'histoire que vous lisez là, mais il faut regarder et se demander, où tu es, Jésus? Montre-moi où tu es. Le frère, il a montré, il a dit son verset, Jérémie 33, que c'est un verset que nous devrions connaître par cœur en tant que chrétiens. Hein? Il nous a dit ça, il dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. » C'est ça notre prière. En ouvrant l'Ancien Testament, nous devons prier ça. « Seigneur, je t'invoque, montre-moi où est-ce qu'il est, Jésus-Christ. » Prenons Joseph, par exemple. Comme je vous ai dit ce matin dans l'étude, on a vu mercredi toute l'histoire de Joseph. Hein, ceux qui étaient là, comme moi, on a été bénis parce qu'on a vu des choses qui étaient cachées, même à moi. Hein. Et il y a des frères et sœurs qui l'ont vu eux-mêmes. Donc, voilà où est-ce que je veux vous amener, pas spécialement ce matin, mais dans notre croissance de l'étude de la parole. Chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, regardez où est Jésus. On a commencé avec Joseph. Hein? Joseph, son nom, Joseph, ça signifie « il a ajouté ». Adam, il nous a retirés et Jésus, il nous a ajoutés. Il nous a ajouté quoi? Il nous a ajouté le salut, il nous a ajouté la paix, il nous a ajouté la joie, il nous a ajouté la communion. Vous savez que par la suite, Joseph, il a été amené, vendu esclave en Égypte. On ne va pas tout reprendre, hein? C'est juste un commencement. Hein? Il a ajouté, Jésus, il a ajouté. Lorsqu'il a été chez les pharaons, l'égyptien, il n'a pas voulu garder son nom hébreu. Et alors, il lui a donné un nom égyptien que je ne vais pas vous le dire parce qu'il est écrit avec des consonnes et des consonnes, mais je vous donne sa signification. La signification du mot que le pharaon a donné à Joseph, ça signifie « le sauveur du monde ». Vous connaissez quelqu'un qui est le sauveur du monde? C'est Jésus. Lorsque l'ange l'a annoncé, hein, il vous est né un sauveur. C'est lui qui va prendre vos péchés sur lui. Donc déjà à sa naissance. Lorsque Joseph il est parti chercher ses frères, il habitait Hébron. Hébron, sa signification, ça veut dire lieu de communion. Et Jésus, lorsqu'il est parti du ciel, il était dans un lieu de communion, dans un lieu de communion avec son Père, dans un lieu de communion avec tous les saints. Il était en parfaite harmonie et il a quitté ces lieux et il est venu ici-bas. Joseph, il habitait Hébron et il a trouvé ses frères à Sichem. Vous connaissez, c'est un endroit biblique, hein, à Sichem. Et Sichem, ça signifie lieu maudit, désert, endroit où il n'y a pas d'eau, endroit où il n'y a rien. Jésus, il a quitté la communion du Père et il est venu ici, dans ce Sichem, qui est la terre, un endroit où il ne devrait pas être, un endroit rempli de péchés, un endroit où il a porté la paix, la joie et la bénédiction. Voilà. Et on a vu pendant la semaine, jusqu'au moment où Joseph, vous savez que Joseph, dans son histoire, il est devenu régent d'Égypte. C'est-à-dire qu'il dirigeait tout. On s'est arrêté là. On reprend l'histoire de Joseph à partir de ces moments-là. Et son histoire, on peut le prendre dans le chapitre de Genèse, hein, des 42 jusqu'à 45. On va continuer à voir ce Joseph qui nous parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un, en lisant ces versets, il s'est dit à lui-même, « Mais c'est Jésus, ça ?» Non, hein. Moi, je suis comme vous, hein. Et c'est un jour que le Seigneur, il m'a parlé, il m'a montré. Pourquoi ? Parce que je suis Aldo ? Non, pas du tout. Parce que Jérémie 33, 3, « Cherche-moi, invoque-moi, et je te révélerai des grandes choses. Vous voulez connaître ce qu'il est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il fera. Cherche-le dans la parole. Je ne fais rien du tout d'extraordinaire. J'ai juste ouvert la Bible et j'ai prié le Seigneur de me révéler. Alors, Joseph, il se trouve dans la maison du Pharaon. C'est lui qui dirige tout. Vous savez que il y a eu une grande famine, 7 années de sécheresse et 7 années de grande abondance. Les années de sécheresse, ça veut dire quoi? Que partout, dans toutes les régions tout autour, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Et alors, 7 années de sécheresse et il y a 7 années d'abondance. Lorsqu'il y avait la sécheresse, les gens, ils amenaient leur nourriture, leurs grains, ils les amenaient chez Joseph. Et Joseph, il avait magasiné tout ça, il avait gardé tout ça. Lorsqu'il y a eu la famine, les gens, ils n'avaient rien à manger, donc ils devaient aller voir Joseph. Il s'est présenté à Joseph, il disait, voilà, hein, on a besoin de manger, on te donne ça. Et lui, il donnait à manger. Et il prenait les gens, ils achetaient. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Que dans la terre de Canaan, où il y avait Jacob avec ses frères, il n'y avait rien à manger. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit Jacob? Il a dit, écoutez, prenez de quoi payer et allez en Égypte. Allez en Égypte et vous allez acheter à manger. Et automatiquement, les enfants de Jacob, ils partent et ils vont en Égypte. Et qui c'est qu'ils vont voir devant eux? Ben, Joseph. Mais ils ne le reconnaissent pas, bien sûr. Regardons l'attitude de Joseph. Parce que Joseph, quand il les a vus, il les connaît, mais pas les frères. Mais imaginez-vous, il l'avait vendu comme esclave. Hein, il l'avait presque tué, quoi. Hein, il l'avait vendu comme esclave. Et là, maintenant, Joseph, il était élevé, n'est-ce pas? Là encore, on voit un rapprochement de Jésus-Christ. Il a été abaissé, hein, comme Joseph. Il a été abaissé et ensuite il a été élevé au rang le plus haut d'ici-bas sur terre. Alors, regardons un peu l'attitude de Joseph lorsqu'il se voit les frères en face de lui, mais il n'a rien dit. Mais regardons l'attitude de Joseph. Et cela, il se trouve dans Genèse 42, verset 23. Voilà, il voit ses frères devant lui, et voilà, 42, 23. Ils ne savaient pas que Joseph, ils ont demandé à manger, hein, ils ont demandé de la nourriture. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, parce que Joseph, il est là, en sachant que c'est ses frères, il écoutait, et eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il s'est servi avec eux d'un interprète. Il ne disait rien. Lorsqu'il devait parler, il y avait quelqu'un d'autre qui parlait. Il s'est servi d'un interprète. Ils n'étaient pas réconciliés. Ils étaient en guerre, pas en guerre avec Joseph, mais ils l'avaient vendu, ils le croyaient mort. Et vous savez, là encore, c'est un rapprochement de Jésus-Christ, de Dieu envers chacun de nous. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il était en colère avec chacun de nous. Pourquoi? À cause de nos manquements, à cause de nos péchés. Et alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en colère avec nous. Il ne nous parlait pas. Mais il s'est servi d'un interprète, lui aussi, comme Joseph. Qui c'est cet interprète? Ouvrez vos Bibles. Dans Jean, chapitre 5. Chapitre 16, pardon. Le verset 8. Jean. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Qui c'est cet interprète? C'est le Saint-Esprit. Joseph, pour parler à ses frères, il ne leur a pas parlé, lui directement, mais il s'est servi du Saint-Esprit. Dans notre propre vie, Dieu, il est en colère avec nous. Lorsqu'on a le péché dans notre cœur, il est en colère, il ne nous parle pas, mais il se sert d'un interprète. Qui c'est cet interprète? C'est le Saint-Esprit. Il fait quoi cet interprète? Il vient de nous le dire. C'est lui qui vous convaincra des péchés. C'est lui qu'un jour, il nous a convaincus de péché. C'est lui qui nous a montré la voie du salut. Et cet interprète, il a fait exactement la même chose avec les frères de Joseph. En tant qu'étrangers, hein, nous étions étrangers au royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous a parlé, il nous a convaincus. Et cet interprète, il parlait à la place de Joseph. Le Saint-Esprit, il nous parle à la place de Dieu. Vous voyez le rapprochement? C'est tout à fait la même chose qu'il arrive à chacun de nous dans notre propre vie. L'interprète, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc que nous sommes dans les péchés, que nous avons besoin de réconciliation et que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Car notre vie sans Dieu, elle ne vaut rien. La vie des frères de Joseph, de tous ceux qui étaient dans la famine, s'ils n'ont pas Dieu, ça ne leur sert à rien. Aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui ont de grandes richesses, mais ils n'ont pas Dieu et ils n'ont rien. Nous peut-être que vivons dans le désespoir, dans la tristesse, dans la souffrance, mais nous avons Dieu avec nous. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Et ici, dans cette vie-là, c'est lui qui nous parle. Quelle reconnaissance que Dieu il a pu nous parler malgré nos péchés. Oui, il nous a parlé par cet interprète qui est le Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous a convaincus. C'est ça l'attitude de Joseph. Il s'est servi d'un interprète. Il ne parlait pas lui-même, mais il s'est servi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous a parlé, il a parlé à notre cœur à travers un témoignage, à travers une évangélisation, à travers un message, à travers un enseignement, et notre cœur a été touché. Regardez la manière de s'adresser aux frères de Joseph. Verset 7. 42, 7. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être étranger pour eux. Et il leur parla durement. Oui, le Seigneur doit nous parler durement pour que nous puissions l'entendre, pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes. Comment est-ce que Dieu nous parle durement? Peut-être en nous enlevant un travail, en nous donnant une souffrance, en nous donnant une maladie. C'est comme ça que le Seigneur il nous parle. Nous fait ressentir le besoin de Dieu. Vous rappelez tous l'histoire de cette tour qui était tombée. Il s'était présenté au Seigneur, il a dit, une tour, il était tombé sur des gens, il y a eu beaucoup de morts. Et alors, ils ont demandé au Seigneur, mais ceux qui sont morts, est-ce qu'ils étaient beaucoup pécheurs, est-ce qu'ils avaient beaucoup péché? Le Seigneur, il a dit, c'est pas une question de péché ou pas. Mais c'est ce qui compte, c'est d'être prêt. Parce que n'importe quoi, il peut arriver. On peut mourir d'un cancer ou un accident. C'est des choses qui arrivent. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut être prêt. Cette tour, il est tombé. Personne n'est responsable, mais elle est tombée. Il y a des gens qui sont morts et c'est ça qui doit nous conduire. J'aurais pu être parmi ces gens. Mais ce qui compte, c'est, mais suis-je prêt à rencontrer Dieu? Et toutes ces choses-là, ils doivent nous conduire à nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il nous parle durement. Lorsque nous avons notre conscience qui n'est pas touchée, il utilise la force. Qu'est-ce que nous avons fait avec nos enfants? Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants lorsqu'ils ne vous écoutent pas? Vous utilisez la force. Pourquoi? Parce que vous avez au plus profond de vous cette joie de pouvoir punir vos enfants. Non, c'est parce que vous les aimez. Et Dieu, des fois, il parle durement, il utilise des choses dures pour nous faire plier. C'est ça que Joseph, il a fait. Il leur a parlé durement, durement. Et Dieu, il fait la même chose avec chacun de nous. Avant votre conversion, si vous vous êtes donné au Seigneur Jésus, vous êtes peut-être passé par des moments difficiles. Chacun, il peut témoigner hein, que vous êtes passé par des moments difficiles. Et vous êtes demandé, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Voilà, ça se peut que ce soit Dieu qui vous parle pour vous dire, regarde-toi où tu es et reviens. Ma main, il est tendue. Voilà que des fois, il parle doucement. Mais il peut parler aussi avec amour, avec douceur. Mais c'est toujours par le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous convainc des péchés. Oui, Joseph, il leur a parlé durement. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils reconnaissent leur état. Il ne s'est pas fait connaître, parce que même dans notre histoire, pourquoi le Seigneur, il veut nous amener au pied de la croix? Pour que nous puissions confesser notre propre état. Si nous ne faisons pas ces pas-là, Dieu, il continuera à nous parler durement. Et il nous parlera encore durement lorsque nous serons devant les trônes, les grands trônes blancs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce salut qu'il a préparé pour toute l'humanité. On peut voir aussi au 42, verset 21, on a vu que Joseph, il s'est servi de l'interprète, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il leur a parlé durement. Et on voit maintenant que le Saint-Esprit, il a déjà bien interprété la pensée de Joseph et la pensée de Dieu. Regardez 42, verset 21. Ils dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. » L'interprète, il leur dit, oui, vous êtes des espions, vous êtes ça. Et il a dit, non, on n'est pas des espions, mais oh, on n'a pas eu pitié de notre frère. Ils ont confessé leur péché. Et on voit ici, ils disent, nous avons été coupables, les frères de Joseph. Et nous, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que Dieu attend de nous? Que nous nous tournions vers lui et que nous lui disions, oui, je suis coupable, je suis pécheur, je ne mérite aucune grâce venant de toi, mais je me tourne vers toi dans le seul et unique nom qui est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour moi, qui a pris sur lui cette malédiction qui était sur moi, la reconnaissance d'être pécheur. Voilà, Joseph, c'est le type du Seigneur, type de Dieu, en ce moment-là, il nous parle durement. Oui, si tu ne te repens pas, tu vas être jeté en enfer, tu vas subir la colère de Dieu. Comment il nous parle? À travers un interprète, à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a convaincu les frères de Joseph. Il a dit, vous êtes tel pécheur. Il a dit, non, non, on n'est pas comme ça. Mais, voilà, on est coupable parce qu'on a tué notre frère. On n'a pas usé de grâce. Déjà, le Saint-Esprit, il a fait son travail. C'est quelque chose de magnifique. Vous voyez, c'est toute l'histoire du salut. Hein. Cherchez-moi et je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Vous regardez cette histoire et vous me dites, mais c'est mon histoire. C'est mon histoire. Regardez 43, verset 16. Après cette confession, la réaction de Joseph, 43, 16. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Voilà, après leur confession, qu'est-ce qu'il dit Joseph? « Faites rentrer ces gens dans ma maison. » Préparez la table, ils vont manger avec moi. Et ça, c'est l'image de ce grand privilège que nous avons en tant que chrétiens. Le Seigneur, il frappe la porte. C'est lui qui ouvre la porte. Il va le faire manger avec lui. Il a prêté un grand repas pour chacun de ceux qui lui ont ouvert le cœur. Et ce repas, il va être l'invité principal en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Nous serons à ses côtés et nous mangerons un peu la même grâce qu'avait utilisée David avec Mephibosheth, le fils à Saül, hein, qui normalement il aurait dû être tué. Hein, et le jour où David l'appelait, il était rempli de peur. Parce qu'il dit, il m'a appelé, c'est pour me tuer, parce que je suis descendant de Saül. Il l'a vu devant lui, il a dit, viens dans ma demeure royale, tu vas prendre la première place, tu vas manger avec moi. Joseph, c'est le type de Jésus qui dit à tous ceux qui ont confessé leurs péchés, qui l'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur, il vous dit, tu appartiens à la famille de Dieu. Dieu, il a préparé un grand banquet pour toi. Les places sont réservées. Personne ne te la prendra. Voilà pourquoi il nous a dit que nous avons un grand héritage là-haut. Peut-être nous n'avons rien ici-bas, sur terre. Aucun héritage. Mais là-haut, nous l'avons. Ceux qui ont Jésus, ils ont cet héritage. Et personne ne le touchera. Hein? Personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a la main dessus. Et il nous l'a préparé pour tous ceux qui lui ont ouvert le cœur. Faites entrer ces gens dans ma maison. Voilà ceux qui reçoivent tous ceux qui ont confessé leurs péchés. Quelle joie! Quelle joie! Quelle reconnaissance! Quelle grâce! Oui, le Seigneur Jésus, il conduit l'âme de tous ceux qui se repentent de leurs péchés et leur assure la vie éternelle. Il leur assure la participation à ce grand repas des noces. Quelle joie! C'est ça notre cheminement. C'est ça. Cherche-moi, je te révélerai des grandes choses que tu ne connais pas. Et vous voyez que je n'utilise pas les Nouveaux Testaments. Hein? Mais quel ancien! Quel ancien! Prenez les 45. On voit les compassions de Joseph. Il les voit. Hein? 45. Il dit, une fois qu'il les en fait rentrer, il dit, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Ça, c'est la compassion de Joseph. Et quelle compassion Jésus-Christ, il a eue envers chacun de nous. En montant sur la croix à notre place, il a pris cette malédiction qui était pour nous. Jérusalem, Jérusalem, lorsqu'il regardait la ville de David, la ville de Dieu, qui n'avait pas voulu de lui, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te réunir autour de moi, mais tu n'as pas voulu. Et il a pleuré là aussi. Dieu pleure. Est-ce que vous savez que Dieu pleure? En regardant cette humanité, il se dit lui-même, il se dit, après tout ce que j'ai fait, j'ai donné mon fils. Regarde les résultats. Et il pleure. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la condamnation, mais à la vie. Mais à la vie. Tout a été préparé pour que nous puissions avoir ce salut. Tomber dans les péchés, c'est un choix qu'ils ont pris Adam et Ève. Mais comme c'était les premiers, il est tombé sur nous, il nous a donné cette nature pécheresse. Et comme je dis toujours, Dieu ne nous condamne pas parce que nous avons une nature pécheresse, mais il nous condamne pour nos propres péchés. Car avant l'âge des consciences, nous ne commettons pas des péchés. Si nous ne comprenons pas, nous ne commettons pas. Mais lorsque nous avons l'âge de comprendre, à quel âge, je ne sais pas à quel âge, hein, ça commence. Mais je crois qu'en tant que parent, n'est-ce pas, on peut déterminer que même un enfant à bas âge, il comprend qu'à un certain moment, il y a en lui cette nature pécheresse. Mon fils, ne touche pas cette boîte de chocolat, hein, ne touche pas. La maman, il rentre et il voit la boîte ouverte. Qui c'est qui a touché la boîte? Ah, c'est pas moi, maman. Hein. Il a fait quoi? Il a menti. Donc, qui dit mensonge, dit péché. Voilà là ce que le Seigneur il nous dit. Et il pleure lorsqu'il voit ces choses. Il a tout fait pour que l'homme il puisse être sauvé. Il a été même au-delà. Il a donné son fils. Des gens ils disent, mais attends Dieu, il n'avait pas un autre moyen de sauver l'humanité au lieu de donner son fils. S'il l'a fait, c'est qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et en tant que salaire, il fallait qu'il y ait un mort. Ou Jésus ou nous. Nous méritions la mort, mais Jésus ne méritait pas. Mais il a pris notre place. Un innocent. Lorsqu'Adam et Ève, ils ont péché, ils ont essayé de s'habiller avec des feuilles de vigne. Lorsque Dieu les a pêchés, il a dit, « Adam, où tu es ?»« Ah, je me suis caché. Ben, »« Mais pourquoi tu t'es caché ?»« Eh oui, mais je suis nu. » Pourtant, ils étaient habillés pour eux. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il a pris un animal qui n'avait rien fait, un innocent. Il l'a tué et il a fait des vêtements pour Adam et Ève. Et ils ont été habillés comme ça. Nous étions des pécheurs. Jésus-Christ, il est mort et Dieu, il nous a habillés de la justice de Jésus-Christ. Lorsque Dieu, il regarde tous ceux qui se sont repentis, il ne voit pas un pécheur, mais il voit un pécheur revêtu de la justice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu pleure en regardant ce monde. Et si seulement nous puissions prendre conscience de cela, Nos agissements, ils changeraient. Là, ici-bas, sur cette terre, lorsqu'on voit quelqu'un qui pleure, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche d'elle ou de lui, on essaie de le réconforter. Parce qu'on trouve ça juste. Mais lorsqu'on sait que Dieu pleure, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. Comme il avait dit quelqu'un, l'homme, c'est le seul animal qui dit non à Dieu. Et c'est vrai. Les animaux, où est-ce qu'ils trouvent à manger? Mais c'est Dieu qui leur prépare à manger. C'est Dieu qui leur donne à manger aux animaux. Et ils obéissent. Va à tel endroit, il y a à manger. Il va, il mange. Hein? Ils obéissent. À nous, les hommes, Dieu il nous dit, j'ai pourvu pour toi le salut. Approche-toi de Jésus-Christ, reconnais tes péchés, accepte-le en tant que Seigneur et Sauveur, passe par cette nouvelle naissance, vis une vie chrétienne. Qu'est-ce que nous disons à Dieu? Non. Non. Hein, vous savez, ici, nous, chrétiens, nous disons que ta volonté soit faite à Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que nous disons. Mais un jour, Dieu, au grand trône blanc, il dira à chacun, que ta volonté soit faite. Tu ne m'as jamais écouté. Que ta volonté soit faite. Va rejoindre celui que tu as choisi. Je t'ai proposé Jésus-Christ, mais tu as choisi qui? Les diables. Alors, va et rejoins les diables. À cet endroit que Dieu il a préparé. Pas pour les hommes. Hein. L'enfer, ce n'est pas pour les hommes. Mais c'est pour les diables. Mais si on fait la volonté du diable, Dieu il nous dit, que ta volonté soit faite. Va rejoindre les diables. Et il va nous jeter dans l'enfer. Ne croyez pas à ces enseignements hein, catholique qu'il y a eu, les diables qu'il y a à l'enfer avec une fourche en train d'enfourcher les humains, les jeter, les tourner, tout ça. C'est faux tout ça, c'est pas l'enseignement biblique. Hein. Le diable n'est pas le roi de l'enfer. Il est là pour souffrir autant que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. C'est ça qui dit la parole, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ils ont voulu garder les gens par la peur. Mais ce n'est pas par la peur qu'on tient les gens, c'est par l'amour. Jésus-Christ, il est venu ici avec l'amour. Et il a donné sa vie. Et c'est comme ça que Dieu, il désire nous retrouver. Il nous a dit « Travaillez pour votre salut ». Pas parce que pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Nous devons travailler pour le Seigneur, pas pour être sauvés. Nous ne devons pas faire des œuvres pour être sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus a tout fait. Il a tout fait. C'est parce que nous sommes sauvés que nous devons travailler. C'est ça que, et en regardant ses frères, il a pleuré. Et lorsqu'on pleure, on a la compassion. Joseph, il a eu la compassion. Et il dit, faites sortir tout le monde. C'est exactement ce qui va se passer. Hein? Lorsqu'il nous est dit dans Zacharie, ils verront celui qu'ils ont crucifié. Et ils se convertiront. Ses frères. Ses frères. Lorsqu'il va venir prendre son église, qui c'est qui va le voir? Il n'y a que l'église qui le verra. Les autres ne verront rien. Les autres ne verront rien. Pourquoi? Parce que Jésus, il est dans la communion et il veut nous avoir dans sa communion. Je m'en vais vous préparer une place et vous serez éternellement avec moi. C'est ça que le Seigneur nous dit. Malheur à tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils vont subir la colère de Dieu. Et ça, c'est autre chose que la colère de l'homme. Hein. On voit ce que la colère de l'homme il peut faire, mais la colère de Dieu, ça va être encore plus terrible. Et il n'y a que Jésus qui peut nous enlever de ça. Hein? Voilà la compassion. Hein? Joseph, il pleure. Hein? Et ça, c'est notre propre message tout autour de nous. Hein? En tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, il faut... Même en pleurant, Paul, il le faisait. Et Philippiens 3, 18. J'en parle maintenant encore en pleurant. Il suppliait. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et il disait ça en pleurant. Pourquoi? Parce qu'il sait la destination de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur, il pleure. Voilà pourquoi Dieu pleure. Parce qu'il a tout fait. Et il voit que ce résultat, ils sont pas arrivés à leur terme. Il y a aussi, vous savez, lorsqu'on rencontre le Seigneur, notre vie, il doit changer. Et on voit ici l'exemple de Judas, pas Judas avec Jésus, toujours dans l'ancien. Judas, c'était le frère à Joseph. C'est un des frères de Joseph, fils de Jacob. Lorsqu'ils ont voulu, par jalousie, tuer Joseph, c'est même Judas, il a dit, non, il faut l'enlever, mettons-le dans une citerne, comme ça, et ensuite on va tuer une bête, on va mettre dans la tunique le sang, et on va le montrer à notre père. Comme ça, il verra qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il a voulu tuer son frère. Il voulait le tuer avec ses frères, mais lui, il a utilisé un peu de grâce, mais il l'a jeté dans une citerne. C'est comme s'il avait tué. Hein? Voilà ce qu'il avait fait. Mais ici, une fois qu'il a confessé son péché, regardez, 44, verset 33. Voilà, c'est toujours lui qui parle, hein? Il lui aurait dit, Joseph lui a dit, bon, vous êtes des espions, rentrez et vous me laissez Siméon, il est plus petit là. Ou Siméon, oui. Et vous rentrez et vous me laissez. Et alors, Judas, voilà, une fois qu'il a ouvert son cœur, voilà ce qu'il dit. Il dit, permets donc que je t'ai pris à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Après une conversion, on doit s'est donné nous-mêmes. Un changement, avant sa conversion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir son frère. Là, maintenant, pour son frère, il lui dit, je veux rester moi esclave, laisse les petits rentrer. C'est ça que le Seigneur il nous demande une fois qu'on a ouvert notre cœur. Un changement de vie, un changement d'attitude. Il faut donner, même si on doit donner notre vie. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Mais s'il y a à faire, nous devons le faire. Pourquoi? Parce que Jésus, il l'a fait. Jésus, il l'a fait. Et Judas, il l'a fait. Il se propose d'être esclave à la place de son frère. Avant, il a tué son frère, là, pour sauver son frère, parce que le Seigneur a mis dans notre cœur cet amour. Mais Dieu, il a répandu son amour dans notre cœur. Et c'est ça. Nous devons le faire sortir, cet amour. Comme David dans les psaumes 23, il dit « Ma coupe déborde ». Dieu ne remplit pas seulement la coupe, mais il la fait déborder. Il y a de l'eau qui sort. Il met toujours en plus. C'est ça que le Seigneur, c'est la grâce de Dieu, ça. Lorsque Dieu donne, il ne donne pas avec parcimonie. Il donne. Parce qu'il est Dieu. Tout il lui appartient. Et ici, on voit Judas, il a changé complètement sa vie. Hein? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour le bien des autres en tant que chrétiens? Jésus, il l'a fait. Jésus, il l'a fait. 45, chapitre 45, le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Voilà, et il se révèle, « Je suis Joseph. » Imaginez-vous la tête de ses frères. Hein? Et verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas. » Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Joseph, il se fait connaître par ses frères. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus, il est venu, dans Jean, nous lisons, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu ou accepté. Mais là, il se révèle. Joseph, il dit, voilà, vous m'avez vendu en tant qu'esclave, mais Dieu, c'était dans les plans de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu, il a changé le mal en bien. Ne vous affligez pas. Dieu, il m'a envoyé devant vous pour vous assurer la vie. Et c'est ce qu'il a fait Jésus en venant ici-bas sur cette terre. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la vie. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il s'est révélé et ils reçoivent cette révélation. Ils ont peur, bien sûr qu'ils ont peur. Est-ce que Joseph, il va se venger maintenant? Non, mais en eux-mêmes, on le voit par la suite, il s'embrasse. On voit en Joseph cet amour. Et en Jésus, c'est pareil. Jésus, il nous dit, venez, vous qui avez faim et soif, vous qui êtes fatigués et chargés, je suis là pour vous. Vous m'avez rejeté tant de fois, mais je suis toujours là. Je vous tends toujours la main. Et c'est ça qu'il attend de chacun de nous. C'est ça qu'il attend de chacun de nous. Il dit, ne vous affligez pas, maintenant ne vous affligez pas, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Après quoi, hein, les frères, il nous est dit au verset 15, ils se sont entretenus avec lui, par la joie et tout ça. Et ils ont partagé cette joie de Joseph, lui. Il était dans la joie. Et Jésus, lorsque quelqu'un s'approche de lui, il partage avec lui la joie. Il s'entretient avec lui. Et ils font cette vie à eux. Il va sortir de partout. Voilà ce qu'est Joseph. Voilà le type de Jésus-Christ. Aviez-vous déjà vu à travers ces chapitres, si vous les aviez lus, l'histoire de notre propre vie, l'histoire de ce que Jésus il a fait, le type de Jésus-Christ. Une illustration divine, prophétique, de ce qu'il va se réaliser dans le futur. Cherchez-moi et je vous révélerai de grandes choses. Ouvrez la parole de Dieu et Dieu vous parlera. Il vous montrera des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Voilà pourquoi ça ne suffit pas de lire une fois la Bible. Ah, j'ai lu la Bible une fois. Il faut la relire, 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 relire et relire. Et encore relire. George Müller, il avait dit, avant de mourir, vous savez la phrase, je vous l'ai déjà dit, hein, avant de mourir, et quelqu'un lui a dit, mais est-ce que tu as des regrets? Il a dit, non, aucun regret. Le seul regret que je peux avoir, c'est d'avoir lu la Bible 250 fois. 250 fois. Dieu nous parle à travers la Bible. Alors, lisons-la. Pourquoi lire la Bible? Pour connaître Jésus-Christ. Car c'est là qu'il se révèle. Que le Seigneur nous aide dans cette révélation. Amen.